Ce matin, on attaque une nouvelle série sur le livre des Proverbes. Le titre que je donne à cette page, c'est les Proverbes, sagesse de Dieu pour réussir ta vie. Il y a des gens qui veulent réussir leur vie ce matin. Moi, je veux la réussir en tout cas. Cette nouvelle série, elle a pour but de nous plonger au cœur des Proverbes. C'est de la littérature qui fait partie de ce qu'on appelle la littérature de la sagesse. Et on va regarder au travers des Proverbes ce que Dieu. Que nous pouvons retirer aujourd'hui en 2018 pour bien gérer nos vies au quotidien. Une grande partie de ce livre est attribuée au roi Salomon, c'est une compilation inspirée de l'écriture de ce grand roi d'Israël. Un roi qui a 32 ans, affirmant que Salomon a écrit plus de 3000 proverbes, 1005 cantiques. C'est tellement bon de voir que Salomon écrit de telles belles choses et malheureusement de voir des fois comment sa vie est finie. Ça nous montre qu'on a besoin de la santé, on a besoin de la grâce, on a besoin de Jésus. Il y a ici des choses inspirées, alors que sa vie n'a pas été exempte d'erreurs. On a une grâce, on a une grâce. On va commencer la lecture. Le premier point ce matin, c'est que le Proverbe nous enseigne à bien gérer notre vie au quotidien. Proverbe de Salomon, donc Proverbe 1, verset 27. On va commencer le verset 6, pardon. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et le remontera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages. Et leurs énigmes. Amen. La réflexion du sage de l'Ancien Testament s'appuie sur l'observation, contrairement à la pensée grecque qui s'appuyait plutôt sur des idées. On voit ça dans le Proverbe 30, où on parle de petits animaux, dont la fourmi. Proverbe 30, 24 à 28, nous dit qu'il y a sur la terre quatre animaux petits, et cependant particulièrement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi, elles sortent toutes en bon ordre. Le lézard, que tu peux attraper avec tes mains, et qui se trouve dans le palais des rois. Les fourmis nous enseignent la préparation et l'anticipation. Les damans nous communiquent l'adaptation en utilisant leur contexte géographique pour pallier leur faiblesse naturelle. Les sauterelles nous démontrent le sens de coopération et de coordination. Le lézard nous montre comment finalement son courage fait découvrir des bénéfices pour sa vie. Il peut être attrapé par n'importe qui, mais il vit dans le palais des rois. Il vit dans l'opulence des rois. À cette réflexion et cette observation que nous pouvons voir dans le livre des Proverbes, nous voyons aussi l'expérience humaine, l'expérience de la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on développera tout au long de cette série. Et ce matin, on va regarder plus particulièrement comment l'auteur des Proverbes compare le sage et l'insensé. Alors, quelques définitions pour commencer. Le titre du livre Proverbes vient de l'hébreu Massal, dont la racine signifie parallèle ou similaire. C'est une description de la vie à l'aide de comparaisons. Il s'agit de phrases courtes, sages, faciles à retenir et qui nous poussent à l'action concrète. Deuxième mot qu'on trouve, c'est le mot sagesse. Et le terme qu'on trouve le plus souvent dans les proverbes, c'est le terme hokma, qui ne parle pas tellement de connaissances théoriques ou philosophiques, mais plutôt d'habileté, d'aptitude et d'expertise. La sagesse hokma, c'est la capacité pratique d'être habile et de réussir dans la vie. Les proverbes, ce n'est pas juste une collection de bonnes paroles, mais ce sont des enseignements spirituels tirés de l'expérience du quotidien. C'est un peu comme si, lorsque tu es devant un problème informatique, quelqu'un pourrait venir me dire et m'expliquer comment le processeur fonctionne en interaction avec l'écran et toutes ces choses-là, j'y comprendrais rien. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est sur quel bouton appuyer pour travailler et accomplir et réussir ce que j'ai à faire. Ce qui s'est produit il y a quelque temps quand on a changé d'ordinateur, on a le PC qui a rendu l'âme et puis on est passé sur le concurrent. Et il faut tout réapprendre. Mais heureusement qu'il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des gens qui nous montrent comment faire fonctionner la marque à la pomme. Et savoir comment faire pour fonctionner, parce que tout est changé. Mais heureusement, il y a des gens qui font des tutos pratiques pour nous montrer comment résoudre les problèmes et puis pouvoir avancer. C'est exactement la même chose avec les problèmes pour notre quotidien. C'est des choses très pratiques pour que nous puissions réussir et accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. La sagesse biblique, c'est la démonstration de la foi de ceux qui marchent avec Dieu. Et cette sagesse, particulièrement dans le livre des Proverbes, s'applique à la vie spirituelle, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie relationnelle au quotidien. Et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des messages de cette série. Et la série que nous avons mis en introduction nous démontre les vertus de la sagesse dans nos vies. Ce que nous voyons, c'est que la sagesse nous apporte des notions de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Est-ce que lorsque j'agis, j'agis avec bon sens? Est-ce que lorsque j'agis, j'agis avec justice? Est-ce que j'agis avec équité? Est-ce que j'agis avec droiture dans mon comportement? On voit verset 4 que ça nous donne du discernement, comprendre les situations qui se passent et qui s'affrontent en nous. Ça nous donne aussi de la réflexion, commencer à réfléchir sur ce qui se passe. On voit aussi que ça nous donne de l'habileté et du savoir-faire. Guizan Arthur, qui est un expert de l'Ancien Testament, explique que la sagesse nous apporte bien plus qu'une connaissance théorique ou philosophique, mais elle désigne une prise de conscience correcte des buts fondamentaux de la vie et de la relation entre Dieu et les hommes, en tant qu'être capable d'agir moralement. Cette sagesse implique un discernement exact du bien et du mal, de la vertu et du vice, du devoir et de la complaisance vis-à-vis de soi-même. Elle apporte également la prudence dans les questions matérielles, mais aussi l'art de se conduire correctement dans nos propres affaires, mais aussi de bien traiter autrui, de bien traiter notre prochain. Proverbe 2, verset 11, définit simplement le but de la sagesse. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. La sagesse nous permet de discerner les bons chemins et d'éviter les pièges dans nos vies. Face aux situations de la vie, la sagesse de Dieu, qui nous est communiquée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, nous apprend à affronter et sortir victorieux des différentes situations qui se dressent devant nous. Deuxième point de matin, c'est que la sagesse s'acquiert par la crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 7 nous dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel ». Et Proverbe 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Ce verset, ainsi que le verset 7 du chapitre 1, nous explique clairement que la sagesse ne peut venir en nous que par Dieu. Mais que signifie craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est premièrement avoir une crainte respectueuse. Le mot hébreu, c'est yira, qui fait allusion à la révérence qui conduit à la piété, c'est-à-dire rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actions extérieures de nous-mêmes concrètes. C'est rendre l'honneur à Dieu par notre attitude, par nos gestes, par nos actions. Cette crainte de Dieu de nous pousser à renoncer au mal et à fuir le péché. Proverbe 3, verset 7. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous avons plein d'exemples bibliques où lorsque les hommes ont vu Dieu, ils ont pris peur face à sa gloire. Ésaïe 6, 1 à 7 nous parle de cette vision des ailes du trône de Dieu. Et on voit que Ésaïe s'est senti sale à cause de son péché face à ce Dieu qui est tellement saint et pur, on l'a entendu dans le livre spirituel ce matin. Mais ce que nous voyons, c'est que l'ange le purifia par un caillou qu'il posa sur sa bouche. Dans Apocalypse 1, 17, on voit les gens qui tombent à rêve comme morts lorsqu'il fut gravi en esprit et vu Jésus dans sa gloire. Mais Jésus posa sa main sur lui et lui dit : Ne crains pas, n'aie pas peur. Dans Exode 33, verset 20, nous voyons que Moïse n'a pas pu voir Dieu face à face, car personne ne peut voir Dieu de face et vivre. Mais Dieu mis sa main pour lui permettre de le voir de dos et le protéger. Notre Dieu est bon. Amen. notre Dieu, dans la crainte de Dieu, nous ferons réaliser qui nous sommes et qui lui est. Elle fait réaliser la grâce qu'il y a dans notre cœur. Quand on a la crainte de Dieu, on a un vrai regard lucide sur son propre comportement, sur ses propres gestes, sur ses propres attitudes. Elle nous fait réaliser la sainteté de Dieu. Et quand nous comprenons qui nous sommes vraiment et qui il est vraiment, nous réalisons que nous avons besoin de sa grâce. Cette grâce de Dieu, ce cadeau du ciel qui pardonne et qui transforme encore aujourd'hui. La grâce de Dieu pardonne et transforme et change des vies encore aujourd'hui même. Si la gloire et la sainteté de Dieu sont impressionnantes et que personne ne peut y résister, nous voyons que Dieu intervient et nous invite à ne pas avoir peur. On voit que Dieu nous protège de sa main. On voit que Dieu nous invite à nous faire confiance. On voit qu'il nous permet d'entrer en relation avec lui. Dieu a accompli ce que nous ne pouvions pas faire à cause de nos fautes. Romains 5, verset 10 nous dit : En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Dieu a comblé le fossé qui nous séparait de sa sainteté, afin que nous puissions apprendre à le connaître, afin que nous puissions apprendre à avoir une relation avec lui. Mais bien plus qu'un simple respect, la crainte de Dieu implique la connaissance de Dieu et la confiance en lui. Découvrir qui il est, découvrir ce qu'il dit et découvrir ce qu'il veut pour nous. La crainte de Dieu, c'est donc chercher cette connexion avec lui et établir cette relation de confiance. Proverbe 9, verset 10, illustre parfaitement le fait que la crainte de Dieu et la connaissance de celui-ci soient la même chose. Alors, vous avez un petit code couleur. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Dans la poésie hébraïque, on utilise un procédé qu'on appelle le parallélisme de pensée ou la symétrie de pensée pour illustrer des affirmations. Dans ce verset, on voit un chiasme qui croise de manière inversée les déclarations. Ici, nous voyons que sagesse et l'intelligence sont interchangeables, de la même manière que crainte de l'Éternel et connaissance de Dieu sont interchangeables. C'est un modèle qu'on appelle ABBA, style propre à une poésie hébraïque. Ce n'est pas une façon de faire nous dans notre culture européenne, mais dans l'hébreu, il joue sur ça, sur les symétries de pensée, parallélisme de pensée, etc. Puis il y en a d'autres, bien sûr, mais ce matin, c'était sur cette emphase que je voulais mettre. Proverbe 2, verset 5 à 6, on dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Là encore, nous voyons que la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu sont synonymes. La crainte, connaissance de Dieu entraîne la révélation de la sagesse de Dieu pour nos vies. La connaissance de Dieu entraîne une relation de confiance et une intimité avec lui. Il veut nous conduire, il veut diriger nos voies en préparant le chemin devant nous. Et ce, au travers de chaque circonstance. Proverbe 3, verset 5 à 7, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Plus loin, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque cette relation de confiance est établie, nous comprenons que les conseils que Dieu nous donne sont là pour produire la réussite et non l'échec dans nos vies. Parlons de la crainte de Dieu, le Dieu dira dans le livre Clé pour la réussite, qui est un livre qui parle des proverbes, il dit que c'est beaucoup plus un credo de liberté que d'être enchaîné par la peur de craindre Dieu. Beaucoup ont une crainte de Dieu qui les paralyse, la peur de toujours le décevoir, mais rassurez-vous, vous le décevez naturellement. Et Dieu le déçoit naturellement. C'est pourquoi j'ai besoin de sa grâce. La crainte de Dieu, c'est beaucoup plus un credo de liberté que d'être enchaîné par la peur. Voilà pourquoi craindre Dieu, c'est aussi suivre ses enseignements. Quand j'ai compris que j'ai besoin de m'en faire à sa suite, Proverbe 3, 1 et 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Voyons que Dieu s'adresse à nous comme étant ses enfants. De plus qu'un Seigneur, Dieu veut être un Père pour chacun d'entre nous. Un Père qui dit mon fils, mon fils. L'expression mon fils, elle est employée 24 fois, le Pagaël, hein, 24 fois dans les Proverbes. Les parents, en règle générale, veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Ils souhaitent le bonheur, ils souhaitent la réussite pour leurs enfants parce qu'ils les aiment. C'est pourquoi aussi les parents avertissent leurs enfants du danger. C'est ce que Dieu veut également faire pour nous. Vous savez, quand une maman, elle dit à son petit bouchon de ne pas aller près de la plaque, c'est parce qu'elle sait qu'il risque de se faire du mal. J'ai vu il y a une vingtaine d'années en arrière, on peut un peu plus maintenant, mon petit neveu qui a été ébouillanté par une casserole. Aujourd'hui, il a toujours la marque de cette brûlure, parce qu'il a été joué près du feu. Sa mère lui disait, ne va pas près du feu parce que tu risques de te faire mal. Quand on voit un enfant de 4-5 ans qui renverse l'eau bouillante sur lui, aujourd'hui, il lui trace ici, c'est toujours marqué. Quand les parents avertissent, c'est pour prendre soin de nous. Quand les parents avertissent, quand Dieu nous interpelle, c'est parce qu'il a quelque chose de bon pour nous. Pour notre malheur. Dieu nous invite à ce que ces enseignements soient gravés dans nos cœurs, liés à ton cœur, écrits sur les tables de ton cœur, le siège de nos pensées. Notre cœur est le siège de notre pensée. Nos pensées déterminent nos actes. Donc Dieu veut que ces enseignements influencent nos désirs, influencent nos pensées, influencent nos motivations intérieures, afin que nous puissions agir selon ces principes. Dans le Proverbe 4, 23, le Seigneur nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'expression « Garde ton cœur » nous invite à une surveillance accrue de ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nos pensées. Vous savez, des fois, on dit « Seigneur, garde mes pensées. » Mais la Bible nous enseigne que c'est à nous de garder nos pensées. Dieu, c'est son travail, mais nous, on a notre responsabilité. « Garde ton cœur. » Veillons à ce que nous laissons entrer toutes les influences. On voit ici qu'on parle de sources, et les sources d'eau étaient des points d'eau qui servaient aussi à délimiter les frontières. C'est parce que je dis veille à ce que tu laisses entrer dans les frontières de ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui va en jaillir. Il y a quelque chose qui va en jaillir. Ce proverbe est une invitation à veiller à ce qui rentre dans notre cœur, ce qui laisse nous influencer, afin que le siège de nos pensées ne soit pas contaminé, afin que ce qui va jaillir de nous émane de Dieu et procure la vie. J'ai vu qu'on réfléchisse à mes buts ce matin. Est-ce que tout ce que je dis, est-ce que tout ce que je fais toujours, ça jaillit de ce que Dieu voudrait que je dise ou que je fasse? Ce proverbe est donc une invitation à veiller. Faire attention. Vous savez, si nous ne veillons pas à ce qui nous influence, nous allons agir comme des insensés. C'est le troisième point ce matin. Le sage contre l'insensé. Le proverbe souligne souvent la comparaison entre le sage qui craint Dieu et l'insensé qui n'écoute que lui-même. Proverbe 1:32, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé les conseils. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Dans ce passage, l'insensé est défini comme celui qui ne craint pas Dieu. Le mot hébreu employé, c'est le mot kessil, que l'on retrouve près de 50 fois, et qui nous parle de quelqu'un obstiné et de stupide. Mais stupide dans le sens de l'attitude qu'il s'est choisie et non par ses capacités mentales ou intellectuelles. La raison du mal du stupide, c'est quelque chose de spirituel. En fait, c'est quelqu'un qui aime sa folie. On voit au verset 30, il n'aime pas les conseils de Dieu, il rejette les réprimandes. Il n'aime pas la correction, il n'aime pas être corrigé. Il n'aime pas être redressé, parce que la correction, le but de la correction, c'est de remettre quelqu'un dans les rails. Il n'aime pas être redressé, il n'aime pas être mis dans la voie où il devrait être. Il se nourrit de ses propres pensées et trouve de la sécurité dans ses propres conseils. Le verdict est assez simple, leur propre voie les détruit. Aveuglé par lui-même, l'insensé rejette la crainte de Dieu. Il se séduit par ses propres raisonnements, par ses propres valeurs, et finit par se faire mal et se perdre. Je ne parle même pas du mal qui est autour de lui. Et du monde dira ce que nous entretenons dans notre vie va éventuellement prendre forme, que ce soit positif ou négatif. Ce qu'on va entretenir va prendre forme. L'histoire nous apprend qu'il y a eu deux grands bateaux. Et qui peut dire quel grand bateau l'histoire nous a donné? Alors, le Titanic d'un côté et l'Arche de Noé de l'autre. Exactement. Le Titanic et l'Arche de Noé, l'un a été fait par un amateur avec Dieu, l'autre a été fait par des professionnels sans Dieu. Lors d'une conférence de presse, le président de la White Star Line, compagnie maritime britannique, aurait déclaré que Dieu lui-même, en parlant du Titanic, ne pourrait faire couler son navire. Au final, un bateau a sauvé, l'autre a sombré. Cette leçon d'histoire nous montre que de nous appuyer sur Dieu et dépendre de lui sera salutaire pour nos vies. Mais s'appuyer orgueilleusement sur nos propres pensées et nos propres voies, ça s'avère destructeur. Il y a toujours un coup, je le répète, il y a toujours un résultat à nos actions. Ne croyons pas ce matin que nos attitudes et nos actions soient sans conséquence. Nos choix et nos décisions entraîne toujours des conséquences. Puis Dumont dira encore, toute pensée que nous ne contrôlons pas finira par nous contrôler. Toute pensée que nous ne contrôlons pas ne met pas des filtres pour voir si effectivement ce que je suis en train de penser c'est juste. Ce que je suis en train de penser c'est ce que Dieu voudrait que je dise, que ma réaction est comme Dieu voudrait que je fasse. Si je ne commence pas à mettre des filtres pour tout ce qu'il peut. Dans une pensée, vous savez, on est influencé par lui, on est influencé par la société, puis on est aussi influencé par notre cœur corrompu. Ben, ça aura toujours des conséquences. Toute pensée que nous ne contrôlons pas finira par nous contrôler. Le Seigneur nous invite dans Proverbe 3:7 à ne pas nous croire sages et à nous aveugler par nous-mêmes, mais à placer notre confiance en Dieu afin de nous détourner du mal. Le dilemme est simple ce matin, c'est encore Luc Dumont qui dira. Prendre la route de la mort ou celle de la vie. Je ne vais pas parler du pouvoir de la langue, ce sera dans le prochain message qui nous parle de ça. Maintenant, on va voir la personnification de la sagesse et Jésus est la personnification de la sagesse de Dieu. Proverbe 1, verset 20 à 23. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes dans la ville, elle fait entendre de ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Cette parole est assez intéressante parce que ça rejoint le don spirituel qui a été donné ce matin. Je crois que Dieu veut déverser son esprit. Il ne peut pas déverser son esprit sur des gens qui restent aveuglés par eux-mêmes. Il ne peut pas déverser les puissances de cet esprit sur des gens qui sont aveuglés par eux-mêmes. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous de la stupidité? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. C'est le cœur de Dieu que les stupides puissent changer et être remplis de lui. Mais pour ça, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Nous voyons dans ce passage, d'ailleurs, que la sagesse est comme une personne qui invite, qui interpelle le gens à la recherche. Elle parle à la manière de Dieu dans les prophètes, à la première personne, verset 23. Elle parle de répandre son esprit, de faire connaître ses paroles. D'ailleurs, nous voyons que cette sagesse était présente à la création. Proverbe 3, 19 à 20, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ces passages font écho au Nouveau Testament où nous voyons que Jésus est actif à la création. Jean 1, verset 24, on va pas le lire. Colossiens 1, 15, pardon. En Jésus, en lui se trouve tout le trésor de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 2 à 3. Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Corinthiens 1, 29, le Seigneur nous dit que Christ est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Christ est devenu cette sagesse pour nous qui vient de Dieu. Vous savez, Jésus n'était pas maître de sagesse. Les gens, d'ailleurs, se demandaient d'où lui venait une telle sagesse. Quand il enseignait Matthieu 13, 54, l'exemple de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient, nous montre comment Jésus était sage et comment il a su détruire les pièges qui lui étaient tendus par la nuit. Marc 12, 12 à 17 pour le passage de César. Tous ceux qui étaient sous la domination de l'empereur étaient obligés de lui verser l'impôt qui lui était dû. Ce n'était pas facultatif. Jésus déclarait finalement que tous les citoyens avaient l'obligation de payer l'impôt au gouvernement. Alors, souvenez, parce que vous allez recevoir votre prochaine avis d'imposition, vous êtes en train d'obéir à Jésus. La sagesse véritable a pour but essentiel la connaissance de la personne de Jésus. Rendons à la société ce que nous lui devons et rendons à Dieu la crainte que nous lui devons. La sagesse véritable, c'est connaître Jésus. Avoir une foi en Jésus, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est le bénir et faire confiance à Jésus en le laissant conduire nos pas et en abandonnant nos faux raisonnements. J'invitez-vous de nous à s'approcher alors qu'on termine ce message. J'aimerais ce matin qu'on puisse faire confiance à Dieu. Le but de ce message ce matin, c'est de se dire finalement que je suis pas sage par moi-même. Je suis pas sage par mes propres fonctionnements. Mais ce que j'ai compris, c'est que ton crainte, Seigneur, c'est de ne pas être terrorisé face à ta sainteté, mais c'est d'avoir un regard lucide sur ma propre vie et de voir que j'ai besoin de ta grâce. Et comme on l'a vu alors qu'il a couvert Moïse de sa main, alors qu'il a touché la bouche des amis, alors qu'il a communiqué tant de temps de grâce, c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous dans sa vie. Que nous puissions saisir le sagesse du ciel qui nous a été offerte en Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais inviter tous ceux qui ont envie de devenir sages, symboliquement pour ceux qui peuvent passer debout devant Dieu ce matin et dire : oui, Seigneur, j'ai compris. Je comprends que pour vivre dans la sagesse, j'ai besoin de te craindre. J'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin de ta puissance. Est-ce qu'on peut prendre ce temps ce matin de prière ? Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui se lèvent devant toi ce matin, qui disent : oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Je prie vraiment pour ton courage et de fortifier. Seigneur, ta parole nous déclare que tu donnes la sagesse à ceux qui nous demandent. Et Seigneur, je voulais être debout ce matin aussi pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. Parce que je veux accomplir, mais je veux vivre ce que tu as prévu pour moi. Notre but, c'est d'être ce peuple qui marche et qui vit pour la gloire de l'Éternel. Que notre vie soit tirée entre toi et toi. Que ta sagesse nous conduise dans les situations de vie particulières. Nous prions peut-être ce matin pour des couples, pour des difficultés, pour des conflits. Seigneur, que la personne ne réagisse en même temps. Et qu'on recherche ton cœur. Seigneur, tu as des choses à nous donner, Seigneur, dans la gestion de nos vies au quotidien. Dans la relation que nous devons avoir les uns envers les autres. Seigneur, on a besoin de ta sagesse. Nous prions pour ta sagesse. Viens les remplir, nous, Seigneur. Nous sommes conscients de notre faiblesse. Et Seigneur, nous croyons que ta grâce s'accomplit dans notre vie. Que ta puissance s'accomplit lorsque nous te reconnaissons. Ta parole dit heureux et pour les prix, car c'est les trompes de Dieu. Donc, on prend ce matin qu'il n'y a pas de temps de retour sur le gouvernement tellement de notre intérêt de notre faible. Et ceux qui se reconnaissent, ceux qui ont le peur. Thank you.